L'Europe et le monde auraient-ils effectivement rien compris, comme si l'histoire bégayait? Dans les Balkans, tout commence avec le discours fondateur de Slobodan Milošević en 1989.
Dans la mémoire collective du peuple serbe, l'absence d'unification de tous les Serbes dans un même État a été décisive dans la perte de la bataille. Et cela a eu des conséquences sur le sort que la Serbie a connu pendant les six siècles qui ont suivi. Même s'il n'en est pas ainsi, d'un point de vue historique, il reste certain que le peuple considère la désunion comme le plus grand désastre de son histoire. Par conséquent, il est du devoir du peuple d'éliminer la désunion pour nous protéger de la défaite, de l'échec et de la stagnation à l'avenir.
Slobodan Milošević, Le nettoyeur des Balkans, épisode 2, du communisme au nationalisme. Alain Lefkovic, Marie-Laure Ciboulet.
Pour comprendre qui était Milošević, on a pris le discours qu'il avait fait en 89.
Carla Del Ponte, ancienne procureure pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
C'était un discours particulièrement important parce que c'était le discours qui justifiait la guerre et surtout qui justifiait le fait qu'il y avait cette haine contre les autres ethnies qui ne soient pas des Serbes. Donc, c'était le début de son activité criminelle. Après, quand je l'ai connu personnellement, quand il a été arrêté, la première fois qu'il est apparu en cour, naturellement en déniant toute culpabilité, il était fâché avec le tribunal, il était fâché avec moi. Alors après, quand l'audience a terminé, j'ai eu un moment avec lui et je l'ai connu un peu mieux dans le sens qu'il ne m'a pas laissé tellement parler, c'est lui qui a parlé. Il se sentait président et cela pendant toutes les 2 ans du procès qu'on a eu, lui, c'était toujours le président. Et naturellement, il a commencé à critiquer le tribunal et le procureur, et c'était de l'injustice. Et donc, moi, j'essayais de le stopper pour parler un peu plus de choses un peu plus importantes que ces histoires qu'il racontait, mais il ne m'a pas laissé parler. C'était la même réaction qu'avait eu le chef mafieux italien quand je l'ai interrogé la première fois. C'était la même chose. Ces grandes puissances criminelles, ils sont fâchés. Ils sont fâchés avec ceux qui osaient, n'est-ce pas? Et pour Milošević, c'était la même chose. Il était fâché que nous ayons la volonté de faire ce qu'on était en train de faire. En tout cas, moi, après 10 minutes de ce colloque, j'en ai eu assez. Comme il arrêtait pas de m'engueuler, en fait, j'ai dit aux agents de sécurité, amenez-le. Ils l'ont pris et ils l'ont sorti de la salle d'audience.
Milošević est un petit apparatchik dont l'avenir politique est compromis puisque l'idéologie sur laquelle il se fonde est en train d'être abandonnée.
Florence Hartmann, ancienne journaliste pour Le Monde en ex-Yougoslavie, a couvert les conflits de la région avant de rejoindre le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Il est pile au moment de sa carrière où c'est lui le prochain chef du Parti communiste de Serbie. Donc la Yougoslavie est composée de 6 républiques, chacune, il y a un parti communiste qui chapeaute au niveau yougoslave et chaque république a sa propre structure. Donc au niveau de la Serbie, c'est Milošević, son mentor va lui céder la place, il voit bien que ça ne va pas fonctionner et il n'a pas d'idée particulière et... Il est approché par les nationalistes qui, voyant l'effondrement, l'épuisement du communisme, disent « là, il y a une opportunité », petit à petit qu'ils attendent. Donc, ils cherchent un nouveau leader. Lui, il a la tête de structure possible, mais il n'a plus l'idéologie qui va lui permettre de rester au pouvoir. Donc, il y a une entente, il y a un deal. Comment ça se passe? Le revirement de la population prend à peu près 4 ans. Il y a d'abord un texte qui s'appelle le mémorandum de l'Académie des sciences et des arts de Serbie, qui est un texte extrêmement nationaliste qui conteste la Yougoslavie en disant la Yougoslavie, elle a été contre les Serbes, puisque Tito a essayé de faire un équilibre. La première Yougoslavie avait été un deal entre nations se libérant de l'Empire austro-hongrois ou ottoman, voulant s'unir parce que slave avec énormément de proximité pour échanger échapper aux ambitions des grands pays autour, que ce soit l'Autriche, l'Italie, la Hongrie, etc. Et elle n'avait pas été cet espoir de mini-Union européenne qui était Union slave du Sud, Yougoslavie, elle a été dominée par les Serbes. Donc Tito, pendant la deuxième Yougoslavie, veut quelque chose qui soit plus une union de tous ces peuples slaves, plus équilibrée, avec aucun peuple qui domine.
Ce mémorandum de l'Académie des sciences et des arts de Serbie, dont parle Florence Hartmann, est un texte d'une vingtaine de pages rédigé par une dizaine d'intellectuels serbes. Texte écrit sous la forme d'un véritable plaidoyer pour l'unité nationale du peuple serbe et pour le droit à l'existence d'une Serbie en tant que nation. Il est ainsi le tout premier texte post-titiste visant à modifier le cadre politico-territorial de la Yougoslavie.
Et les Serbes, dans ce texte-là, dans les années 80, disent « nous avons été désavantagés ». La première réaction chez les communistes qui sont encore au pouvoir, c'est de dire « mon Dieu, c'est l'antéchrist, c'est exactement les thèses nationalistes qu'ont combattu le communisme yougoslave ». Étonnamment, à ce moment-là, se passe quelque chose. Il y a une division au sein du Parti communiste. Il y a plein de réformateurs au sein du Parti communiste serbe et dans tous ceux de la Yougoslavie qui sont capables de gérer la transition vers la démocratie. Il y a cette capacité intellectuelle et on n'est pas dans l'espace soviétique. Mais là, il y a une division. Il y a une partie du Parti communiste qui dit « ah, bah peut-être que ». Qui ne rejette pas complètement ce texte-là. Et c'est le point de départ. Et derrière, c'est un ballon d'essai, en fait, par rapport à la capacité du Parti communiste de se défendre, comme autrefois l'avait fait Tito, où parfois on allait en prison, où on était complètement éliminé, en tout cas des structures. Et là, petit à petit, Milošević fait un putsch au sein du Parti communiste serbe pour adhérer à cette idéologie-là. Étant donné qu'on est dans un pays qui n'est pas encore démocratique, il y a un contrôle de l'État et du parti sur les médias, donc il a le contrôle des médias, il change de software, il met un discours complètement nationaliste, et en 3 ans, la population devient complètement nationaliste. Et il a une ambition impériale, alors on ne la regarde pas comme ça, parce que à l'échelle de la Yougoslavie, c'est une ambition impériale très limitée, c'est pas les grands empires européens qui ont disparu, ou le dernier qui avait survécu, celui de la Russie, en fait, mais la Yougoslavie a été une construction de la fin du 19e siècle, et cet espace a toujours été considéré par une des nations, un des peuples, on appelle aussi des ethnies, mais disons une des nations de la région, comme étant son espace à elle, et que les autres petites nations autour des Serbes devaient finalement être dans un ensemble et ne pas exister en soi comme nation à part avec un État, etc., etc. Donc, quand la Yougoslavie s'effondre, le processus qui n'a pas abouti pendant le 19e siècle, puisque c'est un État multiethnique qui a été créé, est une occasion pour les Serbes de créer leur État-nation en englobant la plupart des territoires. Donc, il veut recréer sur les ruines de la Yougoslavie un espace grand serbe, et qui comporte donc une idéologie nationaliste agressive, qui est contre les autres, en ce sens elle est agressive, elle est territoriale, donc il veut prendre les territoires d'autres peuples, et elle est criminelle, en ce sens où ce n'est pas faisable dans un espace multiethnique, sans éliminer, chasser les populations qui ne correspondent pas à l'ethnie sur laquelle on veut fonder cette nouvelle nation. Donc on a ce qu'on a appelé le nettoyage ethnique, qui est donc la conquête territoriale en éliminant tous ceux qui ne correspondent pas au modèle, là en l'occurrence à l'ethnie qui veut créer cette nation.
Milošević, c'est quelqu'un qui était très attaché à l'idée de défendre la nation serbe.
Céline Bardet, juriste internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War.
Ça, dans ce cadre-là, c'était une pensée très profonde chez lui, et c'est ce qu'il a fait en 87 au Kosovo, où il a vraiment défendu les Serbes. Mais après, je pense que Milošević, dans tout ce qui s'est passé, à partir de 87, 89, 90 et évidemment le conflit en Bosnie-Herzégovine, il y a eu aussi une forme d'opportunisme que lui, il a pris parce qu'il a vu que dans tout ce qui était en train de se passer, ben, ça pouvait l'amener au pouvoir et le maintenir au pouvoir. Donc je pense aussi qu'il y a eu cet aspect-là de sa part.
Ceux qui ont travaillé sur sa personnalité, et en tout cas dans le cadre du procès que j'ai regardé, la procureure Carla Del Ponte souligne que c'est avant tout un ambitieux.
Ninon Maillard, enseignante chercheuse à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire du droit.
Et que tout a été sacrifié à cette ambition de pouvoir en réalité. Elle a l'air de dire que... le projet de nettoyage ethnique, les crimes commis, en réalité, ne font pas partie forcément d'une stratégie prioritaire. Hein, mais il a surfé, en fait, sur le nationalisme pour parvenir à ses fins, qui étaient cette soif de pouvoir.
Mais cette soif de pouvoir, c'est avec sa femme, Mirjana Marković, qu'il va pouvoir la satisfaire.
C'était un couple complètement fusionnel.
Florence Hartmann.
Et elle, idéologiquement... il s'ajoute. Et elle n'a jamais, ce qui est très, très compliqué à comprendre et très, c'est quelque chose qu'il faudrait continuer à approfondir, c'est qu'elle est toujours restée communiste, mariée et encourageant son mari à être nationaliste. C'est quand même une combinaison assez surprenante. Et elle s'est occupée d'assurer l'adhésion de toutes les structures de l'État qui était incompatible avec le communisme. L'armée yougoslave, par exemple. L'armée yougoslave, c'est le résultat d'une armée de partisans antinationalistes, antinazis, antifascistes, etc., etc. Donc ça, c'était extrêmement difficile. Et elle a réussi à permettre cette culbute idéologique qui permettra à Milošević d'avoir l'armée yougoslave à son service, alors que c'est l'armée de tous les peuples de Yougoslavie. Et il aura l'avantage militaire. Donc elle est un élément complet de toute la politique que mène Milošević. Énormément de discussions et de préparations jusqu'à ce que Milošević assure sa réélection et soit élu aux premières élections démocratiques. Toutes les préparations du plan Milošević se font à domicile, avec les affidés de Madame Milošević qui organise, c'est elle qui s'assure que tous les médias soient au service de Milošević et tous les débats se font à domicile. Donc les deux fonctionnent complètement ensemble. Mais la justice pénale, c'est pas juger un couple. On juge celui qui a le pouvoir de jure, donc qui a la position, mais de facto, je pense que elle aurait pu être jugée sur le premier couple jugé. C'est rare, il n'y a pas beaucoup d'exemples comme celui-ci.
Vous savez, moi j'étais procureur et je devais recueillir des preuves suffisantes de la responsabilité criminelle de Milošević.
Carla Del Ponte.
Moi, ce qui était l'idéologie, n'est-ce pas, et pourquoi, le comment. Je suis pas un psychologue, je suis pas un psychiatre, je suis pas un sociologue. Donc, moi, je m'occupe de les faire condamner. Et vous savez, de là, il faut s'éloigner totalement des émotions. Il faut travailler, recueillir les preuves, obtenir les mandats d'arrêt internationaux et faire condamner ces hauts responsables politiques et militaires. Parce qu'il faut pas oublier que la difficulté de notre travail, c'était que il faut qu'on s'occupe de ceux qui n'ont pas commis eux-mêmes les crimes, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas torturé, ils n'ont pas... c'est des gens qui... des ministres, des hauts militaires, des politiques qui ont décidé, n'est-ce pas, ce genre. Ils ont accepté que ce genre de crimes soit commis.
À suivre, le troisième épisode, la première inculpation d'un président en exercice.